France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
C'était au mois de janvier 1996. Jacques Chirac était président de la République et Alain Juppé, premier ministre. En réaction à un plan qui prévoyait une réforme du régime des retraites et de la sécurité sociale, la France venait de connaître près d'un mois de grèves et manifestations, comme on n'en avait pas connu depuis 1968. Un grand mouvement social qui touchait le secteur privé et à peu près tous les secteurs du service public. En ce début de l'année 1996, c'était précisément cette notion de service public telle qu'elle était vécue dans la culture et plus précisément dans le théâtre que Lucien Hatoun interrogeait dans son émission Mégaphonie. Pour ce faire, il avait réuni pour un débat public dans le studio 168 de la Maison de la Radio Jacques Rigaud, haut fonctionnaire auquel la vie théâtrale en France doit beaucoup, le metteur en scène Jacques Baillon, qui était alors directeur du théâtre et des spectacles au ministère de la Culture, Christian Sciaretti, qui dirigeait la Comédie de Reims, Stéphane Braunschweig, qui dirigeait, lui, le Centre dramatique national d'Orléans, et celui dont le nom se confond avec l'histoire du TNP de Villeurbanne, Roger Planchon. Un débat passionnant qui, quelques décennies après, permettra à chacun d'évaluer si la politique culturelle de notre pays a su prendre le virage que préconisait à l'époque Jacques Rigaud et si nous avons su nous garder du danger qu'il redoutait particulièrement, la tentation de l'indifférence à l'égard de la culture. Mégaphonie, théâtre, service public, première diffusion le 23 janvier 1996 sur France Culture.
Mégaphonie. Mégaphonie, Lucien Hatoun, Véronique Lamandour. Aujourd'hui, en direct et en public du studio 168, théâtre, service public.
Voyez-vous, messieurs, la liberté n'a pas toujours les mains propres. Mais quand elle n'a pas les mains propres, avant de la passer par la fenêtre, il faut y regarder à deux.
Service public. Dieu merci, il y a encore certaines gens pour qui le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin. C'est à eux, d'abord, que s'adresse le Théâtre National Populaire. Le TNP est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l'eau, l'électricité. Notre ambition est donc évidente, faire partager au plus grand nombre ce que l'on a cru devoir réserver jusqu'ici à une élite. Enfin, la cérémonie dramatique tire aussi son efficacité du nombre de ses participants.
Après la voix d'André Malraux qui s'expliquait devant l'Assemblée nationale le 27 octobre 1966 à propos d'une querelle sur les paravents à l'Odéon, et certains voulaient interdire les représentations de la pièce de Genet et du spectacle de Roger Blin, vous avez entendu la voix de Dominique Villard qui lisait un texte, c'est celui de son père, Théâtre national populaire, théâtre service public. C'est une phrase qu'on a, lorsque Villard a utilisé cette expression, il le disait, c'est pour parler du TNP. Et puis, de fil en aiguille, grâce à la profession, à cause de la profession, mais aussi poussé par les pouvoirs publics, on a voulu élargir la définition. On est parti du TNP pour aller au théâtre tout court, théâtre service public. Cette émission que nous proposons aujourd'hui est une émission qui a été programmée il y a quelques semaines, mais les difficultés qu'a connues précisément le service public d'une manière générale ont fait qu'on n'a pas pu réunir, ne serait-ce qu'à cause des transports, nos invités. Aujourd'hui, on parle tranquillement, les choses sont passées, mais l'actualité demeure, c'est-à-dire à quoi sert le théâtre et pourquoi il y a un service public. C'est une question que beaucoup de gens s'opposent et se posent. Nous, on a essayé, il y a quelques années déjà, de faire rencontrer le théâtre public et le théâtre privé. Aujourd'hui, on parle de théâtre public. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir un jour avec le théâtre privé, qui a d'autres problèmes et d'autres exigences, comme nous parlerons avec la jeune génération dans quelques semaines au cours d'une émission spécial, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui, en 1996, il y a des gens qui continuent à croire à l'utopie théâtre, qui font du théâtre et qui réclament aussi des subventions. Je crois que là-dessus, on pourra parler de la notion de service public qui est très ancienne, quoi qu'on dise, et ça remonte déjà aux Grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ, et ça continuera, je crois, encore longtemps. La question qui se pose aujourd'hui, en 1996, c'est de savoir quels sont les droits et quels sont les devoirs des uns et des autres. Et pour parler de tout cela en toute liberté, nous avons réuni autour de ce studio Jacques Bayon, Stéphane Braunschweig, Roger Planchon, Jacques Rigaud et Christian Scaretti. Les invités sont là à des titres divers, mais ils sont là évidemment en tant que personne d'abord, mais chacun a dans la profession aujourd'hui une place tout à fait singulière et particulière, et c'est pour ça qu'il nous a été important pour nous que vous acceptiez notre invitation. Alors je dis que je prends simplement comme ça, à la fois il se trouve que c'est l'ordre alphabétique, mais il se trouve que c'est la table ronde. À ma gauche, si j'ose dire, j'ai Jacques Bayon, vous êtes directeur du théâtre et des spectacles au ministère de la Culture, donc vous parlez escalité. Jusqu'ici, quand on vous rencontrait avant des directeurs, vous étiez metteur en scène, auteur, responsable, mais là c'est le directeur du théâtre qui éventuellement voudra bien éclairer notre lanterne sur des questions que nous nous posons, et d'autant plus que vous avez connu le métier de l'intérieur. À votre gauche, il y a Stéphane Braunschweig qui dirige un centre dramatique à Orléans. Il fait partie de la dernière génération des promus, c'est cela ? On peut considérer ça comme un des plus jeunes parmi les récents promus.
Oh non, il y en a plein derrière moi.
Derrière vous, il y en a plein.
Heureusement. D'accord.
Et actuellement, vous êtes à l'actualité en tant que metteur en scène, puisque vous êtes à l'Odéon.
Oui, avec la Francisca. Francisca de Wedekind jusqu'au 18
non,
février.
Pas. On en a tellement non. parlé sur France Culture, et je crois que ça marche bien.
Bah écoutez, ça commence à marcher.
Ça commence bien. Comme quoi le théâtre public peut faire des spectacles, et offrir des spectacles qui ne sont pas forcément des spectacles faciles, mais qui rencontrent leur public tôt ou tard. Et Christian Scaretti, vous avez combien de casquettes, vous ? Trois ?
J'aime pas beaucoup les casquettes.
Non.
J'en ai pas beaucoup, personnellement. Dans les fonctions, oui, trois.
Trois. Vous êtes donc directeur d'un centre dramatique national.
Absolument.
En décentralisation. Vous avez été nommé il y a quelques années, à Reims.
Oui, ça fait 5 ans et demi maintenant.
Voilà, vous êtes metteur en scène.
Oui.
Après avoir refusé longtemps l'institution.
L'avoir refusé, non, Lucien.
Bon, écoutez,
non.
J'étais un vélomoteur avec le...
Ah bah oui, non, il y a eu un parcours qui fut un parcours, voilà. Comment dire, un peu sauvage, mais qui j'ai jamais été un opposant défini à l'institution.
Voilà. Et dès qu'on vous l'a offert, vous avez sauté à pieds joints, c'est ça.
Alors, oui, on en reparlera, ça, de l'offre.
Voilà. Et puis, vous êtes aussi syndicaliste.
Oui, puisque je suis président du syndicat appelé Syndéac.
Qu'est-ce que ça veut dire, Syndéac ? Parce que chaque fois, j'ai dit...
La définition exacte, et à chaque fois,
c'est des entreprises
de l'action culturelle.
L'action culturelle. Voilà. Heureusement que Jacques Rigaud est là pour
Merci,
vous le rappeler. Jacques Rigaud, qui est la mémoire de la culture en France actuellement, puisque vous avez été directeur du cabinet de Jacques Duhamel à une période où les choses n'étaient pas aussi simples que ça pour la culture. C'était après 68.
Ça n'a jamais été simple, vous savez.
Si, il y a des périodes où ça a été plus ou moins simple. En 71, on sortait des bouleversements de 68 et on essayait de tracer un nouveau chemin. Et pendant 2 ans, la même équipe qui s'était trouvée à l'agriculture s'est retrouvée à la culture. C'est paradoxal. Non,
c'est pas paradoxal. J'ai souvent cité un mot de Jacques Duhamel qui, quelques semaines après son arrivée rue de Valois, me dit « Tu vois, par rapport à l'agriculture, ce qui me frappe, c'est qu'on parle des mêmes sommes, mais ici, c'est un ancien franc. » Ça donnait assez bien l'idée de la proportion entre le budget de l'agriculture et le budget de l'agriculture.
Voilà. Une question que je voulais vous poser avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que vous avez, vous, Vous êtes un témoin donc de ce de monde culturel en français. Régulièrement, vous sortez des livres, et il y a un livre qui est actuellement, je crois, très suivi par la profession, l'ensemble de la profession culture, qui s'appelle d'ailleurs L'Exception culturelle. Évidemment, on pense à Bruxelles et à ce qu'on a dit. Mais ce qui est peut-être plus important, à mes yeux, c'est le sous-titre, c'est-à-dire « Culture et pouvoir » sous la Ve République. Et vous racontez comment le ministère de la Culture, qui est né sous l'impulsion de Malraux, à qui le général de Gaulle peut-être voulait faire plaisir, est devenu une chose importante dans le théâtre français et dans la culture française en général.
C'est en effet l'objet de ce livre.
Et en même temps, vous dirigez une station rivale, c'est comme ça qu'on dit.
Rivale, oui, concurrente, confraternelle,
et privée.
D'autant plus sensible à votre attention.
Alors, et privée.
À votre invitation privée,
tout à fait. On peut la nommer RTL. Ce n'est pas une concurrente pour France Culture.
Non, non, absolument.
Voilà. Et Jacques, Roger Planchon est à vos côtés, et je me souviens d'une conférence de presse où vous étiez, justement, où vous aviez nommé Roger Planchon.
C'est pas moi qui avais nommé, c'est Jacques Duhamel,
oui,
sur la proposition d'Antoine de Clermont-Tonnerre que j'avais appuyé.
À qui le théâtre français, d'une certaine époque, doit beaucoup. Il avait fait beaucoup de travail. Et donc Roger Planchon, qui était à Villeurbanne, qui a toujours refusé de monter à Paris, il a toujours trouvé des conditions compliquées pour chaque fois qu'on lui a fait une proposition, que Chaillot, la Comédie française...
Non, il n'y a pas de conditions compliquées. J'ai toujours refusé parce que je suis attaché à la province.
Oui, mais comme il est très poli et très courtois, il disait toujours, oui, mais par exemple, est-ce que je peux avoir ça? Lui, il est complètement fou, donc on ne lui donnait pas. Voilà, il s'en sortait très bien. Jusqu'au jour où vous avez trouvé l'astuce en disant, eh bien, puisque Planchon ne veut pas venir à Paris, Paris ira à Villeurbanne. Et vous avez pris le sigle TNP qui était à Chaillot, et vous l'avez fait prendre le train, il n'y avait pas de TGV à l'époque, il est installé à Villeurbanne, ça n'empêche pas que Roger Planchon, vous faites toujours le même travail, TNP ou pas.
Oui, mais enfin, c'était une décision courageuse de M. Duhamel, vraiment, et importante pour l'avenir, c'est-à-dire que était posée l'idée qu'il pouvait exister en province de grands théâtres de création, et il ne faut pas oublier que je n'étais pas le seul directeur, mais qu'il y avait aussi nommé dans la direction Patrice Chéreau. Donc,
et Robert Gilbert, qui était toujours votre complice.
Et Robert Gilbert, oui, et je pense que le choix, enfin, je ne veux pas parler de moi à l'intérieur, mais enfin, et Gilbert et Chéreau prouvaient quand même une décision tout à fait étonnante, et c'était surtout porteur d'avenir, parce que ce que je crois que souhaitait M. Duhamel, c'est qu'il y ait en France d'autres théâtres importants.
Et ce qui est important, Roger Planchon l'a dit il y a un instant, c'est qu'à ma connaissance, c'est une des premières fois, ou en tout cas dans le domaine du spectacle, on donnait un caractère national à une entité située hors de Paris.
Non, parce qu'il y a un vrai établissement
de Strasbourg.
Il y a celui de Strasbourg,
absolument.
Le TNS, qui existe et qui est en réalité un vrai établissement public, alors que le Centre dramatique national de Roger Planchon et actuellement de Georges Lavaudan n'est pas un établissement public. Et il a le sigle TNP, Théâtre National Populaire, mais il reste avec un statut plutôt Centre dramatique.
On n'avait pas changé son statut juridique, mais on lui avait confié une mission nationale.
C'est ça. Depuis, il y a eu, ça a fait école, il y a beaucoup de théâtres nationaux de région, mais il y avait le TNS qui reste et qui a sous l'impulsion de Gignoux, qui devait faire un peu vitrine, puisqu'on parle un peu de vitrine, par rapport à Strasbourg, il suffisait de traverser le pont. Jacques Bayon.
Jacques Rigaud et Roger Planchon viennent de souligner une situation qu'ils ont su, pour ce qui les concerne, résoudre d'une très très belle façon, mais qui pose un problème en France. Il n'est pas légitime qu'il n'y ait pas, à part justement le Théâtre National de Strasbourg, qu'il n'y ait pas de théâtres nationaux, et je l'entends au sens juridique, en province. On parle sans arrêt de déconcentration, de décentralisation. Eh bien, il serait temps enfin de le concrétiser, parce que les centres dramatiques nationaux, justement, comme on vient de le rappeler, Roger Planchon dirige un centre dramatique national qui, par son histoire, a une importance qui dépasse largement le sigle. En fait, c'est un très très grand théâtre national. Eh bien, ce sont des entreprises, en fait, ce sont des entreprises privées. Et c'est un peu dommage, c'est un manque d'équité. Je crois que la province, là, est tout à fait victime d'une politique qui remonte bien avant le ministère de la Culture, qui est une politique, hélas, toujours jacobine.
Mais alors, est-ce que vous voulez dire par là, Jacques Bayon, que vous faites d'une certaine manière référence, ou vous répondez, vous faites écho à la déclaration qu'a faite le ministre il y a tout juste mercredi, en présentant ses vœux, le ministre de la Culture a souhaité qu'il y ait une refondation. C'est un mot un peu qu'on attribue en général à la gauche et à la gauche communiste. Enfin, c'est un mot qu'a aussi employé Jacques Rigaud dans son livre, qui est repris par le ministre. Donc, le temps d'une refondation, parce qu'il semblerait qu'il faudrait réfléchir un peu plus, si j'ai bien compris ce qu'a dit le ministre, c'est écrit de marque sur blanc, sur la situation du théâtre et service public, mais de la culture en général, aujourd'hui.
Si nous
qu'est-ce qui est remis en cause?
Eh bien, d'abord, ce qui est remis en cause, ce n'est pas une philosophie. au contraire, le ministre souhaite l'approfondir, c'est la notion de service public. Mais maintenant, le temps est venu de ne pas se satisfaire de mots et de concrétiser ce service public de la culture, de le concrétiser à travers ses institutions, à travers ses artistes, à travers, en fait, la fonction aussi de la subvention, qui ne soit pas simplement une bourse, mais réellement une relation avec l'ensemble des citoyens.
Mais est-ce que vous ne voulez pas dire par là que vous allez avoir des exigences de cahier des charges ?
Ah, certainement. Et surtout, nous aurons, mais je trouve que c'est très bien, je ne suis pas le seul à le penser, puisque l'ensemble du ministère en est tout à fait convaincu, et nos partenaires professionnels aussi, nous aurons surtout des contrats, car la politique contractuelle, on le sait maintenant, est une nécessité.
Christian Scaretti, Jacques Bayon s'est tourné vers vous, donc je vais vous poser la question. Vous réagissez à ce qui vient d'être dit ou c'est trop tôt ?
C'est trop tôt.
C'est trop tôt.
Il est évident qu'il y a une question qu'on pourrait poser, c'est quelle est la capacité que nos tutelles ont de pratiquer la vérification, par exemple, de l'obéissance au cahier des charges, oui, par exemple.
Qui juge qui ?
Voilà. Et comment ?
Alors, on va y revenir donc plus tard. Alors, Jacques Rigaud, est-ce que vous pourriez, vous, nous aider à trouver une définition possible, puisque c'est ça votre mission ? Et donc, on sait souvent, en France, on crée des commissions avec des présidents, et très souvent, la mission est déjà dans la tête du président. Donc, pouvez-vous me dire ce que serait la mission aujourd'hui d'un théâtre de service public ? On peut l'élargir à la notion même de service public, mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est plus le théâtre.
Oui, mais c'est pas que je minore l'importance du théâtre, loin de là, car pour moi, il est en grande partie l'âme même d'une politique de la culture. Et une de ses manifestations les plus fortes, et qui requérait le plus justement l'adhésion d'un public et la présence d'un public. Mais moi, je ne sais pas très bien encore ce que le ministre a dans la tête. Ce que je sais, moi, c'est en tout cas ce que j'ai dans la tête, et ce qui m'a conduit à écrire ce livre. Alors, ce n'est pas de ce livre que je veux parler, mais...
Non, on en parlera tout à l'heure.
Je vais vous dire, moi, je patrouille dans le secteur culturel depuis 25 ans, j'y suis attaché de toutes mes fibres et j'ai très peur. Et mon livre est l'expression d'une angoisse. Parce que nous entrons dans un monde, et on le voit bien dans des quantités de domaines où tout est remis en cause, de nos habitudes, etc. On cherche ses repères et nous avons, toutes tendances politiques confondues, des gouvernants qui sont aussi paumés que nous. Et la culture, il n'y a rien de plus fragile. Et dans les choix politiques, et pas seulement en France, je crains que la culture soit sacrifiée. Parce qu'on trouvera toujours d'autres priorités, même si, dans les mots, on dit que c'est important. Alors quand j'observe ce qu'a été la politique culturelle menée depuis 35 ans, par des gouvernements très différents, avec des profils de ministres et de présidents de la République extraordinairement variés, avec les alternances politiques, les à-coups, en faisant une espèce de mise en perspective de ce qui s'est passé depuis ces 35 années, j'observe que la politique culturelle a été marquée finalement par une très grande continuité. Et que d'un ministre à l'autre, et même avec le changement politique de 81, les grandes idées ont continué.
Sauf qu'on s'est rapproché en 81, on a essayé de ce fameux mythique 1%.
Oui, mais c'est pas n'importe. Fallu attendre 94 ou 95 pour y parvenir en principe.
Et qu'il était remis en cause par un collectif.
N'oublions pas, même si c'est une négation, que Jacques Lang, en 82, a obtenu le doublement de son budget.
Voilà.
Ce qui ne s'est évidemment jamais revu. Bon. Et quelles que soient les critiques qu'on puisse faire au système, moi je considère que le paysage culturel de la France a été formidablement transformé dans ces 35 ans. Et que c'est à mettre au crédit de la politique culturelle. Mais mon diagnostic, c'est que cette politique culturelle, telle qu'elle est conçue et menée avec ses instruments, ses méthodes, meurt en quelque sorte de son succès. Le modèle me paraît épuisé. Alors on peut continuer, encore pendant 2 ans, pendant 3 ans, avec exactement les mêmes pratiques, les mêmes principes. Ce ne serait pas dramatique. Sauf qu'au bout de quelques années, la politique culturelle sera fragilisée, que s'il y a une grave crise économique, ou une remise en cause idéologique, que ce soit celle de l'ultralibéralisme qui peut nous menacer, ou venant d'ailleurs, la politique culturelle pourra mal être défendue. Alors il ne s'agit pas du tout de la révolutionner. Moi, ce que je voudrais, c'est contribuer à ce qu'on mette les choses à plat, c'est-à-dire maintenant, à notre époque, avec la mondialisation, avec l'Europe, avec l'exclusion, avec le formidable défi de la société de l'information, des multimédias, qui va transformer les comportements et les pratiques des jeunes générations, quel est le sens d'une politique culturelle? Quelle doit en être l'ampleur et quels doivent en être les pôles? Car le temps où l'État, et c'était une grande époque dans les années 60, concevait d'en haut et imposait verticalement au tissu culturel des formules et des méthodes, ce temps est dépassé. L'État, à mon avis, doit continuer à jouer un rôle extraordinairement important, déterminant, mais avec des partenaires qui sont les collectivités locales, qui sont ce qu'on appelle les entreprises ou les industries culturelles, qui sont les entreprises, les autres entreprises qui font du mécénat, le milieu syndical, le milieu associatif. L'État doit orchestrer tout ça, mais sans en être le maître absolu comme il le fut à une certaine époque. Voilà le sens que j'attribue à cette refondation de la politique culturelle.
Si j'ai bien compris, vous partagez un peu cette inquiétude que vous citez dans votre livre en vous appuyant derrière Hannah Arendt sur l'histoire de la culture, des loisirs. Je crois qu'il faudrait s'arrêter là-dessus, parce que c'est important, là.
Oui, parce qu'on a tendance dans notre société, notamment dans notre société médiatique... Et
qui parle de la crise de la culture.
Je sais de quoi je parle, à propos des médias, notamment de la télévision. On a tendance à confondre la culture et le divertissement. Et Hannah Arendt l'avait vu il y a bien 20 ou 30 ans. Moi, ce qui m'a frappé pendant toutes les discussions du GATT auxquelles vous faisiez référence, quand on parlait à l'inénarrable M. Cantor, négociateur américain, culture, moi je me souviens d'une interview...
Il n'a rien à voir avec français. Cantor à nous.
Non, mais ce Cantor-là, quand on lui parlait culture, il répondait « entertainment
oui. »,
c'est-à-dire divertissement.
Mais un progrès, il ne sortait pas son revolver.
Certes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas aux États-Unis des Américains qui soient friands de l'avant-garde du théâtre, de la musique et de la peinture. Mais dans la société américaine, la culture, c'est le divertissement. Or, il est bien évident que nous ne lui attribuons pas le même sens, même si le loisir, le divertissement ont une part dans la vie de chacun.
Qui peut faire partie de la culture.
Mais bien entendu, mais disons au niveau modeste, au niveau quotidien. Mais nous vivons tous depuis 35 ans et même avant sur cette utopie que la culture, dans ce qu'elle a de plus exigeant, de plus fort, peut être, dans certaines conditions, proposé au premier venu et qu'il peut y accéder. Alors si on s'est trompé, mieux vaudrait le dire, mais je ne le crois pas.
Frédéric Arboué.
Oui, vous nous dites qu'il faut réinventer une politique culturelle pour échapper à ce que vous appelez dans votre livre la fracture culturelle. Mais alors concrètement, après le bilan, après les propositions, l'heure n'est-elle pas à l'action? Et qu'est-ce que vous préconisez?
Ah ben, ça va être justement l'objet de cette mission. Moi, je ne suis pas le ministre de la Culture. Celui-ci me demande d'animer une commission qui devra faire des propositions. Vous pensez bien que même si j'ai quelques idées en tête, et pas seulement en tête, puisque je les ai mises sur le papier, cette commission n'a de sens que si elle écoute.
Moi,
j'entends bien procéder de la manière la plus libre avec ceux qui m'entoureront dans cette commission à des auditions qui nous permettront de faire un diagnostic des attentes et des contradictions des uns et des autres.
Je dois dire que je suis un peu surpris, en tant qu'observateur, c'est que le ministre ait éprouvé le besoin de revenir à une période qui est une belle période de l'histoire de la culture française, c'est-à-dire, je crois que ce n'est pas un secret, dès qu'il a été nommé ministre de la Culture, il a pensé à la politique de Jacques Duhamel, d'ailleurs il en parle dans son allocution, disons que c'est un élu de province comme moi-même, bon, Jacques Lang pourra dire qu'il est aussi élu de province, donc ce n'est pas un argument, mais enfin, pourquoi ce retour en arrière? Est-ce que c'est un bond en avant possible?
C'est pas un retour en arrière, mais ce qui me frappe dans l'histoire de cette politique culturelle, c'est un des éléments de cette continuité, c'est la façon dont pratiquement tous les ministres se sont réclamés d'une part de l'héritage qu'ils recevaient. Et Jacques Lang lui-même, dont vous parlez, s'est plus d'une fois référé tant à André Malraux qu'à Jacques Duhamel. Alors dans le cas de Douste Blasi, c'est un peu différent. Il est de sensibilité, même d'engagement politique centriste. Il m'a dit un jour que c'est Jacques Duhamel qui, sans qu'il le connaisse personnellement, avait décidé de son engagement politique. Et il savait ce qui avait été fait en ce temps-là. Il ne s'agit évidemment pas de revenir à l'époque Duhamel. Moi, je serais le dernier à lui recommander de revenir à ce qu'on a fait il y a 25 ans. C'est bien évident. Mais c'est
vous avez nommé Jacques Lang à Chaillot.
Absolument.
Notamment.
C'est au niveau d'une certaine inspiration que, me semble-t-il, Philippe Douste Blasi souhaite se réclamer. D'accord. De la pensée de Jacques Duhamel.
On pourrait dire une philosophie aussi, peut-être.
Peut-être.
Roger Planchon, vous, les ministres, vous approchez du micro, il n'y a pas de problème. Les ministres de la Culture passent. Vous avez connu d'abord un secrétaire d'État. Enfin, vous avez connu toute une flopée de ministres. Et vous avez eu souvent à devoir dialoguer avec les ministres au nom de la profession, au nom de la notion de service public. Je me rappelle ici même, à Radio France, d'un immense débat qui avait eu lieu avec Mme François Giroud, où vous défendiez le droit au service public, dans un débat animé par Jean-Pierre Elkabbach, à l'époque qui s'occupait de culture. Et qu'est-ce que vous dites, vous, tout ça ?
Tout ça, c'est non. Trop vaste, hein, je ne sais pas où il faut le prendre.
Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui peut bouger pour vous ?
Non, je ne sais pas. Bah, commençons par, évidemment, les choses qui nous paraissent inquiétantes, c'est-à-dire, je vais redire un tout petit peu ce que vient de dire Jacques Rigaud, c'est-à-dire qu'il y a actuellement aucun homme politique... enfin, ou à peu près, qui a une ambition culturelle pour la France. Et ça, c'est évidemment assez triste, toutes tendances confondues. Enfin, bien sûr, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais enfin, on est évidemment extrêmement inquiet de ça. C'est-à-dire que face au chômage, face à tout ce qu'on sait, eh bien, il n'y a aucun homme politique qui peut tenir un discours clair en disant comme ceci, les œuvres de l'esprit sont importantes, à partir de là, il faut que la France... se réfléchissent là-dessus et veuillent faire quelque chose véritablement. Donc là, c'est un premier sujet d'inquiétude véritable. Ce n'est pas qu'en France, d'ailleurs, M. Rigaud vient de le dire aussi, dans toute l'Europe, c'est pareil. C'est-à-dire que tout le monde s'attend à une réduction des frais culturels, si j'ose dire, pour toutes les nations. Et évidemment, c'est une sale chose, car je pense le contraire, c'est au moment des crises que, précisément... les problèmes de l'esprit deviennent très très importants pour une nation. Là, la deuxième chose qu'on peut dire dans les choses inquiétantes, c'est qu'il y a eu effectivement une décentralisation, et M. Rigaud vous dit comme ceci, il faut refonder la culture. Nous sommes bien obligés de constater qu'actuellement, la formation du personnel politique des régions, des départements, est très faible sur ce niveau. C'est-à-dire que, très souvent, ils ignorent qu'est-ce que c'est que ces problèmes. Ils ont le sentiment, ils ne savent pas, par exemple, ce que vient de dire M. Bayan, c'est qu'une grande partie de l'argent que dépense la France est dépensé pour le seul Paris. Et ils n'ont jamais eu, par exemple, l'idée de dire, nous régions, nous départements, nous souhaitons une véritable politique de la France, véritablement décentralisée, donc il faut une espèce de... un nouveau partage des sommes qui sont données. Or, là-dessus... ce ne sont pas de mauvaises gens, ce ne sont pas des gens ignares ou crétins ou tout ce qu'on veut, c'est simplement des gens non informés. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce problème, et en plus, ils ont des bonnes raisons de ne pas le connaître, puisque la décentralisation n'a jamais mis ça en avant. Et la deuxième chose qui n'a pas été mise en avant, c'est que les gens qui ont fait l'aménagement du territoire, même le dernier ministre que j'ai eu un petit peu en face de moi, qui a fait l'aménagement du territoire, n'a pas prévu de volet sur le plan de la culture. C'est-à-dire qu'on peut faire une décentralisation industrielle, on peut faire une décentralisation pour les grandes écoles, etc. Mais on n'a pas idée de faire une décentralisation véritable de la culture, enfin, véritablement. Donc le personnel politique est très démuni.
Quelles que soient ses opinions politiques.
Oui, là, je parle toute tendance confondue. Absolument. Je ne fais pas un combat sectaire. Je dis simplement que le personnel de province est démuni. La troisième chose que je voudrais dire, et qui est quand même très, très importante, et qui est triste, véritablement triste, c'est qu'il y a eu en France, à un certain moment de l'histoire française, après la guerre, l'idée... du point de vue de la gauche, que la classe ouvrière devait revendiquer la culture. Et ce souhait a été très motivant pour tous les gens de théâtre, pour tous les gens qui s'occupaient de cela. Or, ce souhait, il a été abandonné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, aujourd'hui, dans les entreprises, beaucoup de militants culturels. Et c'est terrible pour nous. Parce que, si vous voulez, je crois que j'ai fait, dans ma vie, de je ne sais pas combien, 1000 ou 2000 prises de parole dans les usines... Or, je ne peux même plus les faire aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de militants qui m'invitent à venir parler dans une entreprise. Et je pense que l'addition de ces choses, c'est-à-dire le personnel politique de haut niveau, qui a peur de tenir un discours sur la culture, et qui, devant le chômage, tremble de tenir un discours un peu clair sur ce que devrait être la défense des œuvres de l'esprit. La deuxième chose, un personnel politique, globalement, des régions... qui et des départements qui ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils n'en ont jamais eu, mais qui ne savent pas comment aborder le problème culturel, leur ignorance toute simple, enfin leur ignorance, ils ignorent qu'il y a une politique possible pour eux et qu'elle est souhaitable. Et le troisième point, c'est-à-dire la disparition des militants culturels dans les entreprises, c'est quelque chose d'extrêmement grave pour la situation française.
Jacques Bayon.
Je voudrais compléter l'inquiétude de Roger Planchon. En fait, il faut bien distinguer, et en même temps travailler synthétiquement sur les deux notions, il faut bien distinguer l'intérêt général et le service public. Parce que le service public, pris dans un sens réducteur de simple service, est quelque chose qui est tout à fait perçu, conçu par nombre de collectivités territoriales. C'est-à-dire que, je parle pour le théâtre, c'est-à-dire que ces collectivités territoriales souhaitent que l'impôt soit utilisé afin de faciliter l'accès maximum aux salles de spectacle de nos concitoyens. Mais là où il y a une contradiction apparente, parce que cette contradiction devrait disparaître, c'est que ceux qui ne cessent d'être conscients de la nécessité de l'intérêt général, eh bien, cela voudrait que l'effort soit porté sur la qualité, l'effort soit porté sur la création, l'effort soit porté sur le renouvellement. Il ne devrait pas y avoir cette contradiction. Mais il est vrai qu'actuellement, dans l'état présent des forces locales, eh bien, ces forces ne sont pas tout à fait exigeantes et suffisamment exigeantes pour la qualité. Et c'est vrai qu'il y a un petit conflit. Et je ne suis pas sûr que l'État actuellement puisse complètement prendre le risque d'envoyer la balle dans les pieds des collectivités territoriales, parce que la réponse est parfois un tout petit peu trop réductrice.
Alors, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, les trois, là, et on entendra tout à l'heure, je pense, les deux autres, c'est que j'ai l'impression de me retrouver comme il y a une vingtaine d'années, lorsque on avait inauguré ce qui allait devenir l'une des grandes cathédrales du XXe siècle, c'est-à-dire les maisons de la culture. Et je me rappelle que le général de Gaulle est allé avec André Malraux à Bourges, parce que c'était une maison de la culture exemplaire, disait-on. Et qu'est-ce qu'une maison de la culture exemplaire à l'époque, c'était un bâtiment qui est polyvalent, qui soit polyvalent, et qui est une troupe permanente et qui est du public. C'était exemplaire, il n'empêche que très vite on va avoir des problèmes à Bourges, conflit entre la municipalité et l'État, mais enfin, pour permettre aux uns et aux autres de reprendre une petite respiration, sans faire de nostalgie, je crois que ça serait intéressant d'écouter une partie du discours qui avait prononcé le 18 avril 1964 M. André Malraux.
Mesdames et messieurs, d'abord, merci d'être là. Il faut que vous compreniez bien que ce qui se passe ici est une certaine aventure, probablement dans le monde entier. Je dis que c'est une aventure dans le domaine de l'esprit, parce qu'il faut que l'on comprenne bien que le mot « loisir » devrait disparaître de notre vocabulaire commun. Oui, il faut que les gens aient des loisirs. Oui, il faut les aider à avoir les meilleurs loisirs du monde. Mais si la culture existe, ce n'est pas du tout pour que les gens s'amusent, parce qu'ils peuvent aussi s'amuser peut-être bien davantage avec toute autre chose et même avec le pire. Et ce qu'on appelle la culture, c'est l'ensemble des réponses mystérieuses que peut se faire un homme lorsqu'il regarde dans une glace ce qui sera son visage de mort.
Ben, je crois qu'il a dit beaucoup de choses, même si ça fait rire. Qu'est-ce qui vous fait rire là, dans ce qu'on vient d'entendre ? C'est le ton ou c'est les propos ? Qui veut répondre ? Ou qui ne veut pas rire ? Okay. Stéphane Brunschweig, vous avez souri, puis vous êtes retenu parce que vous êtes poli. Mais qu'est-ce que ça
non, moi, j'ai souri parce qu'il y a eu un gros bip là qui a
oui, parce
enlevé
qu'on
le dernier mot du texte.
Oui, voilà. Mais à part ça, vous qui êtes de formation philosophique, non, je crois, vous avez un propos là-dessus.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant
loisir,
d'entendre ce texte-là, sachant qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans la société du loisir, qu'effectivement, compte tenu du fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas, il faut bien se poser la question du temps qu'on fait, du temps qu'on passe à ne pas travailler, donc du temps dit de loisir, hein, c'est bien ça la définition. Donc effectivement, on peut se dire que dans une société comme ça, où le travail est de plus en plus absent, où le temps de travail est réduit, la place pour la culture devrait être de plus en plus grande. Et que justement, il ne faut peut-être pas que seulement le loisir occupe le temps qui pourrait être aussi imparti à la culture.
Qu'est-ce qui fait que vous vous engagez ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé dans le théâtre alors que vous auriez pu enseigner la philosophie ?
Vous savez, ça, c'est des histoires personnelles.
Oui, hein. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne pose pas une question générale, je pose une question personnelle pour avoir une réponse personnelle.
Non, je crois que... Enfin, quand je faisais de la philosophie, j'avais l'impression de travailler tout seul. Quand on fait du théâtre, non seulement on travaille avec des gens autour de soi, on est tout le temps dans un état de discussion, de confrontation, de contradiction parfois, et qu'ensuite cette chose-là se passe avec d'autres gens qui sont les spectateurs. Et c'est vrai que je pense qu'au théâtre...
Ça, c'est le partage, en somme.
C'est le partage. Enfin, ça, je raconte mon expérience personnelle, mais c'est aussi parce que au théâtre, on arrive quand même à penser, et sur le terrain strict de la philosophie, peut-être que quand on est tout seul, on arrive moins à penser, en fait. Hein, oui. Qu'il y a une pensée au théâtre qui est justement une pensée de la contradiction. Vous savez, quand la philosophie, c'est essentiellement quand même un art du système, et que même s'il y a eu des grands philosophes contradicteurs, mais au théâtre, on peut arriver à penser sans que ça soit une pensée fermée, une pensée finie, et que je crois que c'est un très important pour nous aujourd'hui de travailler là où la pensée ne se referme pas sur elle-même.
C'est-à-dire faire véhiculer des idées aussi.
Ah bah les idées, c'est autre chose. Alors là, il faudrait demander à Christian pour qu'il nous parle de Badiou.
Mais non, parce que il y a quelques années, il y avait une interview de Jean-Paul Sartre. Au moment des séquestrés d'Altona. On lui demandait pourquoi il écrivait pour le théâtre, lui qui était philosophe, et il expliquait que ses idées, il avait le sentiment qu'elles arriveraient plus vite chez les gens à travers le théâtre qu'à travers un bouquin.
Oui, mais...
Vous dites la même chose.
Non, mais moi, je ne crois pas que le théâtre soit le véhicule des idées ou de la pensée. Je crois que c'est le producteur de la pensée, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire, on pense en même temps qu'on parle. On ne pense pas avant et ensuite, on dit ce qu'on pense.
Alors, vous avez choisi le secteur public, c'est-à-dire de demander des subventions.
C'est le seul moyen.
Ah non, mais puisque vous ne voulez pas parler, alors...
C'est une définition réductrice.
Alors, allons-y, maintenant. Oui. J'aurais une réponse, peut-être.
Non, mais Lucien, le silence autour de la table était assez éloquent de ce point de vue-là. Si nous ne parlons pas, si on disait rien aussi, c'est que...
Non, je ne vais pas faire une interview de Dieu pendant une heure et demie. On est en direct.
Non, mais on notait tout d'un coup que nous ne parlions pas. Je crois que c'est important de le noter. C'est qu'on avance, nous, je crois, vraiment sur des œufs à cause d'une coupure... de la mémoire, de l'histoire, du service public. Coupure que moi, je perçois du point de vue de mon histoire propre, évidemment, autour de 68. Je crois que là, à cet endroit-là, non pas forcément à l'intérieur du processus ministériel, mais à l'intérieur du processus même du métier, c'est-à-dire de la transmission, je dirais, artisanale de notre art et de nos relations aux tutelles, au public ou aux auteurs, il y a un arrêt. Et que lorsque j'entendais M. Rigaud ou Roger Planchon s'exprimer, j'avais envie d'écouter, par exemple, c'est-à-dire d'être tout d'un coup dans un espace d'écoute, hein, d'apprentissage, qui m'a fait défaut, moi, pendant un certain temps. Ce qui fait que lorsqu'on nous demande pourquoi avez-vous choisi le service public, mais parce qu'il n'y avait que cela. Je ne vois pas aujourd'hui un jeune acteur qui se décide à aller vers la mise en scène se dire « Tiens, je vais aller dans le privé ». C'est faux. Le rapport qu'on va entretenir à ce moment-là avec la subvention est un rapport quasiment univoque dans lequel on le considère comme un arrivée financière juste et légitime du point de vue d'une sorte de génie propre qui nous permettrait de nous exprimer. Et non pas dans une relation dialectique entre ce que vous appelez le droit et le devoir et ce qu'on pourrait appeler l'offre et la demande. C'était clair tout à l'heure sur Reims. On vous a offert Reims, mais comment j'aurais pas pu demander Reims et au nom de quoi ? Eh bien, j'avais du mal à le demander parce que la redéfinition de ce rapport très particulier à l'argent public et puis au public demandait de ma part un effort de repasser, de refaire tout un trajet historique, un héritage historique que je n'ai pas eu. Mais également dans le système de l'éducation nationale. À l'université, moi j'ai été en philo à Vincennes et à la Sorbonne, mais à Vincennes, avec d'éminents philosophes, Deleuze, Châtelet, des gens importants, mais qui entretenaient un rapport de logorée verbale, mais pas d'exercice par exemple. D'exercice concret, je parle écrit, Ce qui fait qu'on avait un rapport extrêmement flou.
Vous êtes en train de critiquer mai 68.
Non, c'est pas. C'est la question n'est pas de le critiquer, c'est d'essayer de nommer exactement le silence qui était le nôtre au début. Et pourquoi, à un endroit, on a du mal à faire le compte d'un héritage historique. C'est le service public, d'abord, sa première définition, c'est l'héritage historique. Et comment il s'est transmis jusqu'à un certain point, et à partir d'un certain moment, il s'est beaucoup moins transmis. Et comment certains metteurs en scène, notamment parmi les jeunes, considérait l'institution, la diabolisait en disant en gros la sauvagerie de la compagnie avec sa subvention qui crée un peu partout est bien mieux et bien plus nécessaire en fait à l'expression de l'art et non pas un esprit plus responsable. Moi je l'ai vécu comme ça, alors c'est vraiment affectivement que je parle. C'était le discours d'Amiens qu'on entendait d'André Malraux.
Bourges.
Je crois que plus tard il parle de la révélation et du commentaire.
Ça c'est Amiens.
C'est Amiens qui parle de la révélation et du commentaire. C'est-à-dire cette espèce d'ambiguïté dans laquelle on est. Est-ce que quelqu'un veut en voir une œuvre spectacle sur scène, est placé devant quelque chose qui va fonctionner dans l'espace de la révélation, c'est-à-dire que ça suffit en soi le voir pour qu'on soit révélé, ou est-ce qu'il va falloir passer par un espace du commentaire où on va créer un malentendu, je crois, dit Malraux, parce qu'on va finir par penser qu'il faut comprendre pour ressentir, en quelque sorte. Cette question-là est importante parce que j'étais sensible à ce que disait Roger Planchon sur la difficulté qu'on a à trouver nos relais. Mais parce que nos relais, précisément, ont éventuellement l'instruction qui leur permet d'être disponibles à cette révélation, mais non plus l'éducation. Et ça, c'est très important. L'important au silence, au théâtre, c'est savoir faire le silence. Et le silence, c'est l'éducation, c'est pas de l'instruction.
Jacques Rigaud, vous vouliez dire quelque chose?
Oui, parce que moi, je suis très frappé de ce qui vient d'être dit. Alors, je ne vais pas tout ramener à mes propres préoccupations, mais cette génération-là que nous venons d'entendre, parce qu'elle nous dit et parce qu'elle ne nous dit pas ou qu'elle a de la difficulté à dire, me paraît prouver que les schémas sur lesquels des vieux routiers comme Planchon ou moi nous avons vécu et vivons encore, ça leur dit plus grand-chose. Alors c'est une référence historique importante. Ils ont besoin de se situer par rapport à elle. Alors ou bien de l'assumer, ou bien que nous les aidions à trouver autre chose qui corresponde bien sûr aux mêmes finalités. Nous parlions du service public, mais adapté à ce qu'est leur propre itinéraire et leur frustration et leurs besoins. Et ça me paraît... Moi, je dois dire que je suis extraordinairement frappé de voir que dans un monde aussi difficile que celui où nous sommes, avec tant d'incertitudes, il y ait des hommes et des femmes jeunes, y compris les jeunes comédiens que vous avez, qui s'engagent dans ce métier formidablement difficile, le plus précaire de tous les métiers précaires, et qui en même temps veulent y mettre absolument toute leur force. Et nous avons un devoir de les aider. Deuxième remarque, quand vous parliez de la dialectique de la révélation et du commentaire, vous savez qu'elle n'est pas propre au théâtre. Mmh. Moi, il se trouve que j'ai eu à construire et à ouvrir le musée d'Orsay. Et nous avons eu une discussion extrêmement forte avec les conservateurs et tous ceux qui devaient préparer le musée sur ce qu'était la vraie vocation d'un musée, dont nous voulions d'ailleurs que, compte tenu de son projet, le 19e siècle, il fasse venir un public nouveau, y compris un public issu de la classe ouvrière dont parlait Planchon. Et il y avait une opposition entre ceux, notamment les conservateurs, qui considèrent que l'œuvre doit parler par elle-même et toute seule, sans aucune médiation. Et ceux qui considéraient qu'un environnement pédagogique, tout un discours, était nécessaire pour accéder à l'œuvre. Alors, il n'y a pas de solution unique à ce problème, sauf que nous avons voulu, dans l'espace et dans l'organisation du musée, faire en sorte que ce contact direct et à l'état pur entre le regard et les œuvres soit non seulement possible, mais organisé, mais que toute la périphérie du musée, tout ce qui précède la visite, tout ce qui la suit, tout ce qui l'accompagne, y compris une action culturelle que nous avons instituée dans ce musée avec les différents réseaux, permettent le commentaire après, avant ou pendant la révélation.
Stéphane Branchevet, vous vouliez réagir?
Oui, mais je pense que... Enfin... que ce que pouvait dire Malraux n'est pas si loin de ce que l'on peut aujourd'hui attendre du service public. Je ne crois pas que ce soit là que porte la différence. Je crois qu'aujourd'hui, simplement, enfin, il y a quelque chose qui a probablement assez changé dans la nature du geste théâtral. Et que, évidemment, ça engage aussi de se poser la question institutionnelle à partir de ça. C'est vrai que dans les années d'après-guerre, quand Villard travaillait, quand Brecht est arrivé en France, etc., on pouvait assez clairement dire de quoi parlait ce théâtre, à qui il s'adressait, et que comme disait Lucien tout à l'heure, ça véhiculait effectivement des idées. Les gens pouvaient, en venant, ils pouvaient savoir et se reconnaître dans un certain discours qui était tenu ou pas sur scène. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu différent. Je crois que le théâtre s'adresse plus à un public pris comme ça, plus en masse. Je crois que le théâtre s'adresse avant tout à des individus. Et c'est pourquoi aussi il est plus difficile à cerner. C'est pourquoi il est plus difficile aujourd'hui d'en assurer et d'en fonder la légitimité. Et je crois que les questions que nous nous posons aujourd'hui tournent autour de ça. Que comme le disait Roger Planchon tout à l'heure, il y a une difficulté peut-être aussi pour les hommes politiques à maintenir une idée du service public, c'est que probablement, et donc à défendre l'idée qu'il y ait des subventions, c'est l'idée qu'on donne de l'argent à la culture, je crois que c'est parce que, une certaine légitimité, c'est au moins dans le discours perdu, ce qui n'est pas vrai dans les faits, ce qui n'est pas vrai dans les salles de théâtre. Il y a toujours du monde dans les salles de théâtre.
Évidemment, et dans les musées et dans les salles de concert.
Évidemment, c'est vrai. Là, je voyais une affiche de cinéma là, sur une colonne Maurice, je ne sais plus quel film, Les Inconnus, déjà 3 millions de spectateurs. Je me suis amusé à faire le calcul tout à l'heure, que si on jouait à l'Odéon 6 fois par semaine pendant 10 ans, avec 800 spectateurs, on y arriverait peut-être.
Remarquez que je peux vous dire une chose, Stéphane Manchevêque, les Inconnus n'ont pas empêché qu'à Lourdes, qui est la ville du ministre, le dernier cinéma ferme, parce qu'ils ont fait le bide à Lourdes.
Oui, non,
plus de cinéma à Lourdes.
Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, le cinéma, l'industrie du cinéma, la télévision, ce sont des arts ou des artisanats qui, en tout cas, touchent énormément de personnes. Nous, quand on arrive à toucher 20 000 personnes, on est déjà très heureux. Alors, il est clair que le service public, c'est un service, petit public. Ce qui n'empêche pas que dans ce service petit public, on touche beaucoup de gens et que aussi un certain nombre de gens sont touchés par ceux qui ont vu les spectacles. C'est-à-dire un certain nombre de gens qui n'ont pas vu les spectacles peuvent être également touchés par ceux qui les ont vus.
Jacques Bayon.
Le texte de Malraux était un texte fondateur, c'est un texte d'un premier temps. Et il ne faudrait surtout pas que la mise en garde portée par lui à l'encontre du loisir, cela nous conduise à jeter le bébé avec l'eau du bain, et que cela nous fasse mélanger loisir et plaisir du public, parce qu'il ne faut pas l'éliminer, car il y a une dimension qui m'effraie et qui est de plus en plus laissée de côté, c'est la notion de plaisir et de désir. Si justement nous voulons avoir une véritable relation de petit public avec le petit public, avec la personne, il faut passer par le désir et ne pas miser complètement tout sur formation, éducation, parce qu'il y a un côté sinistre qui ne relève absolument pas de l'art là-dedans.
Mais qui fait partie souvent des discours ministériels.
Oui, parce que c'est le discours non culpabilisé parce qu'il ne touche pas à la sexualité.
Votre remarque, Jacques Bayon, a fait rire la salle. Je ne sais pas pourquoi.
Mais... c'est aussi une défense. Hein. Oui. Simplement.
Et vous aussi, c'est aussi une défense.
Pas du tout. Si, pas du tout. Ce n'est pas une défense, puisque, encore que nier est toujours une défense, bien sûr, mais ce n'est pas une défense, c'est un rappel. S'il y a des spectateurs dans une salle ou pour écouter du théâtre, il y a entre une grande part de sexualité, d'érotisme, de désir, même si cela n'est pas le tout du désir des spectateurs. Et mais laisser alors, cela poser... de côté, c'est un monde sinistre avez... que l'on se prépare.
Tout à fait. Alors, je vais vous poser une question un peu, je me fais l'avocat du diable. Supposez que je sois à la place de Schiaretti ou de Brochebrick ou de Planchon, parce qu'ils ne vont pas vous le dire. Et à la fin, ils font leur bilan. Vous avez donné, vous, en tant que directeur du théâtre, vous avez dit, voilà, la subvention du ministère pour le TNP, pour Amiens ou pour Orléans est de temps. Et puis, il n'y a pas assez de public, mais ils vous ajoutent, mais attention, on ne peut pas estimer, valoriser le côté désir qu'il y a eu et plaisir qu'il y a eu. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que directeur de théâtre ?
Écoutez, d'abord, je ne fais que soumettre au ministre, hein, que ça soit absolument... absolument clair.
Vous acceptez qu'on travaille pour le désir et que ça ne soit pas... Parce que, vous savez,
bien sûr que j'accepte que l'on travaille
pour le désir. Il y a un ministère des Finances qui est aujourd'hui...
Mais Lucien, vous savez, c'est ça le grand débat. C'est qu'actuellement, si nous n'avions qu'une vision rationnelle, et j'insiste aussi sur cette vision, nous insisterions sur la fréquentation. Il faut insister sur la fréquentation.
C'était le sens de ma question.
Non, mais c'est la partie service public. Mais si j'ai parlé de l'intérêt général au départ, ce n'est pas gratuitement. C'est bien parce que je comptais parler du désir. C'est que l'intérêt général est beaucoup plus lié au progrès artistique et que le progrès artistique, c'est-à-dire la carrière, mais au sens artistique et pas professionnel, la carrière de chaque créateur correspond plus à une relation qui prend en compte aussi la sexualité de la population.
Voilà, mais la question que je voudrais vous poser peut-être à Roger Planchon et à Jacques Rigaud, pourquoi cela ne serait-il pas possible dans le théâtre privé ? Jacques Rigaud, vous qui dirigez l'entreprise privée, par ailleurs.
Bon, écoutez, je vais vous dire... Moi, je suis juriste de formation. Hein. Avant de m'occuper de culture, j'étais au Conseil d'État, et donc j'ai une formation de juriste. Et le mot de service public, pour moi, il a un sens très précis en droit public. Et quand j'écoutais cet extrait fameux, légendaire même, de Jean Villard tout à l'heure, j'étais un petit peu gêné, parce que vous souvenez de sa phrase, le théâtre doit être un service public comme l'eau, le gaz et l'électricité. On n'oserait plus prononcer une telle phrase, on voit bien l'esprit, hein, et nous sommes tous fidèles à l'esprit de Jean Villard, mais on n'oserait plus prononcer cette phrase, ou en tout cas avec ce genre d'image, d'autant plus que l'eau, le gaz et l'électricité sont ou vont être privatisés, ou qu'on sait plus très bien, on sait plus très bien où on en est. Donc, la notion de service public dans le domaine culturel, Dieu sait que j'y crois, mais encore faut-il la définir, bien la cerner, ou la redéfinir. Vous avez des services publics assurés en régie par la puissance publique, dans les théâtres nationaux, dans certains théâtres lyriques nationaux, il y a un service public du patrimoine, etc. Mais le service public culturel ne se limite évidemment pas à des organismes de droit public qui l'assurent. Ça peut être le cas d'organismes privés. Et l'ensemble des compagnies aidées, et qui doivent être les partenaires de l'État, participent en effet à un service public au sens large du mot. Alors il y a un mot, moi, qui m'a frappé, et je suis frappé, et je n'en veux pas à M. Schiaretti, mais il a employé un mot que personnellement j'essaye de chasser du langage de la culture, et il l'employait innocemment. C'est le mot de tutelle. Vous n'avez pas honte de parler de tutelle. Mais vous n'êtes pas le seul. Dans tout le milieu culturel, on parle des tutelles, etc. Alors, moi, je serais pour qu'on interdise, sous peine de sanction, l'usage de ce mot.
Vous savez pourquoi ils emploient ce mot ? Pour culpabiliser les pouvoirs publics.
Et je le dis devant le directeur du théâtre et des spectacles, qui est le tuteur avec un grand T, et qui s'en tire comme il peut. Moi, je crois que c'est un mot qui ne devrait plus avoir de sens. Et d'ailleurs, ce que disait M. Bayon sur un partenariat, sur des engagements de service public, montre que la relation... Bon, il ne s'agit pas de dégrader l'État et de le ramener au niveau de chacun des citoyens. Mais d'abord, l'argent que dispense le ministère de la Culture, ce n'est pas l'argent de M. Douste-Blazy ou de M. Bayon, c'est l'argent des contribuables. Donc ça rentre dans un processus démocratique. Et vous émettiez tout à l'heure la crainte que... en échange de cet argent que l'on vous confie, pas qu'on vous donne, que l'on vous confie, on porte un jugement, que la tutelle vous juge sur des critères que vous ne sauriez guère maîtriser, etc. Je dirais que plus les engagements qui vous seront demandés de prendre seront des engagements objectifs. Moi, je me souviens, et Roger Planchon s'en souvient, quand nous avons créé ces premiers contrats de décentralisation dramatique sur 3 années, il y avait en effet des contreparties. Mais on avait cherché à les rendre le plus objectifs possible, c'est-à-dire, et on en avait discuté avec la profession, c'est-à-dire le nombre de créations, le nombre de pièces contemporaines, le nombre de spectacles donnés hors du milieu, du lieu de théâtre, c'est-à-dire dans les écoles, etc. Donc il faut objectiver au maximum ce type d'engagement qui vous sont demandés, afin que l'évaluation qu'on en fera ne laisse qu'aussi peu de place possible au goût ou à l'appréciation de tel ou tel inspecteur du théâtre, disant « moi, j'aime pas son style, j'aime pas ses mises en scène, j'aime pas la manière dont il dirige les comédiens », parce que ça, c'est du domaine de votre liberté qui doit être préservée. Donc, ne parlons plus de tutelle, parlons de partenariat, de transparence dans les engagements mutuels. Car en échange des engagements que vous prenez, il faudrait que l'État s'engage. Or, un des drames, permettez-moi de terminer, je me tais, c'est que, et ce n'est pas la faute des responsables administratifs, mais qu'avec le système de financement que nous vivons, moi je le vois pour le centre culturel dont j'ai la charge, j'ai en face de moi des fonctionnaires qui me disent « voilà ce qu'on va vous donner cette année, on ne peut pas vous donner plus », et ils sont parfaitement sincères, sauf que 2 mois après, j'apprends que ce n'est pas ça, mais qu'il y a eu un gel, il y a eu une annulation, et que ce sera 10% de moins, 15% de moins, etc. Donc nous n'avons aucune certitude, et ce n'est pas de leur faute. Et donc, ça rend impossible cette espèce de rigueur et de sérénité dont nous avons besoin, nous, acteurs de la vie culturelle. Oui.
Ce qui fait plaisir, presque, qui fait sourire vos jeunes auditeurs qui sont à cette table, c'est qu'au fond, malgré votre autorité, malgré votre prestige, malgré votre connaissance du milieu, vous souffrez des mêmes problèmes à un moment donné lorsqu'il faut discuter subventionnement avec l'État et aussi avec la municipalité.
Mais vous savez, quand je me suis trouvé pour la première fois dans la peau d'un demandeur de subvention au titre de la chartreuse de Villeneuve-les-Aignan, après avoir été directeur de cabinet du ministre, et que j'ai eu envie parfois d'envoyer l'encrier à la figure du fonctionnaire, je me suis dit, est-ce que souvent ceux qui me faisaient face quand j'étais dans la position inverse ont eu la même envie? C'est très bon.
Oui voilà. Oui, Alain, voilà, je me réponds direct. Roger Planchon, alors qu'est-ce que vous... Il y a un moment... Bon, on a parlé tout à l'heure un peu de l'héritage de Villard, et c'est intéressant ce que dit Christian Ascaretti sur la rupture. Il n'y a pas de relais. Il y a un moment où il y a une cassure entre les générations. Et vous-même, vous avez refusé d'être un de ces relais, parce que souvent, la profession a vu en vous le successeur de Villard, celui qui allait être le parrain, l'exemple. Et vous dites, non. Moi, je ne veux pas de ça. Vous avez refusé d'être...
Non, c'était... Enfin, je sais pas. Oui, bien sûr, parce qu'on est l'héritier de personne, c'est évident. Je n'allais pas prendre l'héritage de Villard. J'ai toujours pensé que... Bon...
Je suis Roger Planchon.
Non, c'est pas ça. C'est que Villard a des centaines de fils, et pourquoi je me déclare le fils aîné, quoi. Ouais. Même si Villard m'aimait bien. Donc ça ne change rien.
Oui, il vous aimait bien.
Donc
oui.
Je ne suis pas son fils aîné. Je l'ai toujours dit. C'est simplement un problème d'élégance. Je voudrais dire une simple petite chose, peut-être un peu en dehors du débat, mais je veux le dire au grand public surtout. Je voudrais dire une chose importante, c'est que nous avons une énorme difficulté aujourd'hui à repenser, si vous voulez, les problèmes culturels, parce que nous n'arrivons pas... Et les fonctionnaires que vous avez en face de vous sont des finances, sont effectivement appartiennent à cette catégorie, à justifier les dépenses de la culture. Ne comprennent pas, en définitive, enfin se posent tout le temps la question, est-ce que ce ne sont pas des dépenses inutiles? Je voudrais dire une chose très simple, mais vraiment au grand public et en dehors de tout débat idéologique. Il faut savoir que tous les divertissements, même les plus bas et les plus invraisemblables, coûtent beaucoup d'argent. Et qu'une émission de télévision, que peut-être autour de cette table, tout le monde méprise, ça coûte des sommes énormes que les gens payent. Ils ne le payent pas directement, bien sûr. Ils ne le payent pas totalement directement, mais ils le payent dans les produits qu'ils achètent, dans le café qu'ils achètent, dans la bagnole qu'ils achètent, puisque c'est payé par la publicité. Et à la fin, ce sont des sommes considérables. Alors évidemment, il y a un tout petit secteur où on essaye de passer autrement les choses. C'est-à-dire que ce soit pas la demande, on le sait bien, quoique la plupart des émissions de télé d'assez bas niveau font quand même beaucoup de public, on le sait bien. Mais elles coûtent très 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 cher, ces émissions, et elles sont véritablement payées par la population. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à comprendre comment les fonctionnaires d'État, qui ont quand même le sens de l'État, soient toutes les années à se reposer la question, il faut justifier les sommes qui sont données à la culture. Alors qu'en vérité, oui, c'est l'argent des contribuables, mais... Tous les divertissements coûtent de l'argent. Il n'y a rien qui ne coûte pas d'argent. C'est pas vrai. C'est payé toujours. N'importe quelle émission très populaire de la télévision est payée très très cher par le contribuable. indirectement, mais est payé quand même.
Stéphane Branchepaille.
Et souvent aussi, ils ne se rendent pas compte à quel point l'argent qui va à la culture est source d'emploi. Il faut quand même le dire, c'est-à-dire qu'il y a, ça crée effectivement des emplois qui sont souvent précaires, des emplois d'intermittents de plus en plus, ce qui est peut-être regrettable. Mais c'est vrai que l'argent de la culture, l'argent du ministère de la Culture, ça fait vivre un certain nombre de gens qui sans ça ne vivraient pas. Et donc quand à chaque fois qu'on a des collectifs budgétaires, des gels budgétaires, c'est toujours tous ces emplois précaires qui sont immédiatement concernés.
Christian Scaretti.
Vous êtes d'accord? Non, j'étais en train de méditer sur la tutelle et mes dérives sémantiques. Non,
je voulais simplement dire que cette émission nous vous permet quand même de vous rencontrer et de rétablir un contact.
Formidable. Non, mais
une seconde, Jacques Bayon, oui.
Je voudrais faire
Christian, vous voulez terminer une phrase?
Non,
oui.
Bah, oui, non, je voulais simplement dire que. Non, j'entends bien. Je le souhaiterais également. Vraiment. Je souhaiterais qu'il y ait une partition au niveau des définitions de nos missions qui soit tellement responsable qu'on soit dans une harmonie absolue et sans rapport de suspicion. Je constate que c'est pas le cas. C'est-à-dire, je le constate, je le sais, je suis très très bien placé pour le savoir, avec toutes les pressions qui sont les miennes, évidemment. Donc je sais qu'il y a des défaillances. Alors où se trouve ? On le sait très bien. On a travaillé sur des contrats à les définir. On a fini par dire il vaut mieux pour un centre dramatique de penser la situation locale d'une région. Parce qu'un centre dramatique en Champagne-Ardenne n'a rien à voir avec un centre dramatique en Rhône-Alpes. Et articulons vraiment les définitions en respectant la spécificité des lieux. Très bien. Il n'empêche, je voudrais juste terminer, il n'empêche que si on ne veut plus employer ces termes affreux, et j'en conviens, il faut une part de responsabilité extrêmement bien établie, une moralité à toute épreuve. Je ne suis pas sûr qu'on soit rendu véritablement à cette maturité-là. D'autant plus que, encore une fois, en ce qui me concerne et avec mon histoire proprement théâtrale, il me fait défaut une transmission.
Le père, non seulement, il manque le père.
Je ne sais pas si c'est le père, le maître ou ce qu'on voudra. Je dis que j'ai parlé tout à l'heure d'instruction publique et d'éducation. Moi, je préférais parler d'instruction publique, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Moi, c'est pas la même chose. J'ai un déficit au niveau d'une transmission de savoir.
Alors, Jacques Bayon, un mot.
Je voudrais revenir sur la remarque de Stéphane Brandjouek sur la création d'emplois dans le secteur culturel et celui de la création. C'est tout à fait exact. Mais il est vrai que lorsqu'il y a un collectif, ce sont tous les ministères et tous les possibilités d'emploi qui peuvent être affectées.
J'adore, juste une chose, hein. J'adore ce mot ambigu, j'ai mis des années à comprendre que ça veut dire collectif. Moi, je pensais rugby.
Oui.
Et puis un jour, on me dit, mais tu comprends rien. C'est collectif?
On marque quelque chose, c'est-à-dire que collectivement, oui. Une somme est prélevée.
Voilà.
Ça s'annonce la plupart du temps.
Ça s'appelle une amputation.
C'est une annulation.
Une annulation de subvention.
Une annulation de crédit qui, la plupart du temps, s'annonce par un gel. Je voudrais rappeler que Philippe Douste-Blazy, en décembre 1995, s'est battu avec Matignon. Avec Matignon et pas contre Matignon, bien au contraire, pour que le spectacle vivant, musique, danse et théâtre, soit épargné par le collectif, et il l'a été.
Et on se demande s'il s'est battu avec Matignon, contre qui il s'est battu. Mais à vous, Roger Planchon. Je suppose que vous parlez du ministère des Finances. Roger Planchon.
Non, évidemment, on souhaite tous, enfin je pense que je parle au nom de
la profession.
De la profession, oui, bien que je me délègue tout seul. Donc, on souhaite tous qu'effectivement, le ministère des Finances accepte la règle qu'ont souhaité M. Duhamel, qu'ont souhaité quand même de nombreux ministres, d'un contrat normal pour ces établissements qui sont aidés par l'État, d'un contrat normal de 3 ans. Pourquoi ? Parce que nous prenons, nous, des engagements généralement 2 ans avant. C'est-à-dire que ce qui ne va pas, c'est très simple à la fin, c'est que nous nous engageons aujourd'hui pour des spectacles... mais véritablement, financièrement, dont l'échéance tombera, enfin, nous devrons payer dans 2 ans. Or, il est évident qu'un contrat de 3 ans, il est ce qu'il est. Mais en tout cas, on sait qu'il y a une espèce de garantie. Et sans arrêt, toutes les années, le ministère des Finances le remet en question, non seulement le remet en question à l'année, mais le remet en question à l'intérieur de l'année. Mmh. Et il y a là... il ne faut pas s'étonner après s'il y a une méfiance envers les pouvoirs publics. Parce qu'effectivement, on n'accuse pas là, le ministère, mais on est bien obligé de dire les finances, ça ne va pas, ils devraient respecter le contrat.
Et ça coûte de l'argent à l'État si on compte les adjoints qu'on est obligé de payer aux banques en attendant que l'argent vienne. Par exemple, je vous annonce là, Jacques Bayon, en direct, il y a un certain nombre de personnes qui sont très angoissées en ce moment parce que leur directeur de banque leur téléphone en disant « Vous avez eu la lettre du ministère ?» Non. Alors on va vous couper les vifs parce que vous avez atteint le maximum de découvert possible.
Je vous remercie, Lucien, de dire cela, parce que je vais tout de suite communiquer une information.
Ah.
Que la plupart de vos interlocuteurs qui sont inquiets me contactent ou contactent mes collaborateurs. Et ils connaissent notre numéro de téléphone au ministère. Et je me ferai un devoir, et nous nous ferons un devoir avec mes collaborateurs, de contacter leur banque pour leur donner les assurances correspondantes. Mais je voudrais parler sous le contrôle...
Bah écoutez, j'ai pris note. Et
Absolument. Sur ça, je ne me serais pas permis de donner une telle information. Je voudrais parler sous le contrôle de M. Rigaud, qui, comme vous le savez, fut directeur de cabinet. Et je voudrais répondre à Roger Planchon pour lui dire que, n'oublions pas que le problème, c'est qu'il y a annualité budgétaire. Et qu'il est, pour l'instant, et je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, moi, hein, en tant qu'administratif, je ne me permettrai pas de porter un jugement, il est nécessaire de pouvoir faire entrer tous nos contrats, ou de faire évoluer la loi, mais de faire entrer tous nos contrats à l'intérieur de ce cadre des annualités budgétaires. Parce que, à ce moment-là, nous risquons toujours d'avoir des contrôleurs financiers qui refuseraient d'avaliser nos engagements.
Roger Planchon, un mot.
Je pense qu'il faut que le ministre s'engage à faire évoluer la loi. Nous le pensons, M. Duhamel l'a souhaité, je souhaite que celui qui s'inspire...
Non seulement l'a souhaité, mais l'a réalisé.
L'a réalisé, ça a été quand même signé par un décret au Journal officiel.
Jacques Rigaud.
Et si le ministre actuel s'inspire de M. Duhamel, eh bien c'est une bonne chose s'il arrive à faire bouger la loi. Cela dit, je voudrais dire une parenthèse, quand on commence des grands travaux, je ne sais pas quoi, la cathédrale de Strasbourg, en définitive, on dit on va retaper la cathédrale de Strasbourg, on engage bien une tranche de travaux qui ira jusqu'au bout. Je pense qu'il faut considérer les gens qui sont aidés par l'État pour faire du théâtre, service public avec tous les guillemets que vous voulez, c'est la même chose, c'est une tranche de travaux qui s'étend sur un certain nombre d'années. Et puis voilà, et il faudrait que...
Non mais là aussi je voudrais vous répondre, Roger, parce que c'est... La technique n'intéresse pas nos auditeurs, mais cela appartient en comptabilité à deux lignes, on appelle ça des chapitres, à deux lignes tout à fait différentes. Et il est vrai, et ça là, je le regrette, je parle en mon nom uniquement, ça n'engage que moi. Je regrette profondément qu'en France, l'on n'attache pas autant d'importance à ce que l'on appelle les interventions qu'aux constructions. C'est-à-dire que la France, et elle ne doit pas être, j'imagine, le seul pays en Europe, a une préférence instinctive pour l'investissement, c'est-à-dire, en fait, pour la construction. Et c'est dommage, parce que notamment dans notre art, dont nous débattons aujourd'hui, qui est le théâtre, c'est pas tellement une question de construction, c'est avant tout une question de création. Il est vrai qu'en comptabilité publique, cela est moins privilégié. Ce n'est pas une question du ministre de la Culture. C'est une question d'esprit de notre civilisation.
Nous sommes d'accord. Mais ce que dit Roger Planchon, et je crois que ce que va dire Jacques Rigaud, c'est qu'il faut une combativité du ministre pour imposer une idée juste. Jacques Rigaud ?
Non. Moi, je peux dire que lorsque, en effet, en 71-72, nous avons voulu ces contrats pluriannuels, ça a été une bagarre sans nom avec les finances et qu'il a fallu l'arbitrage du Premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, pour imposer raison aux finances. Et je reviens à ce que disait Roger Planchon, qui a hélas raison. L'administration des finances est une des administrations les plus honnêtes, les plus compétentes et les plus attachées à l'État qui soit dans notre République. Néanmoins, elle a collectivement, à l'égard en effet de la dépense culturelle, une méfiance caractérisée et qui est stupide. Car comme le disait Braunschweig tout à l'heure, c'est vrai que la culture est génératrice d'emplois nouveaux, d'emplois de type nouveau, d'emplois beaucoup plus proches de ceux du prochain siècle que des emplois industriels qu'on supprime à tour de bras et qu'on ne reconstituera jamais. Ne serait-ce qu'à ce titre, elle mérite considération, de même que dans au moins certains domaines, pour la balance des comptes et pour l'équilibre des échanges extérieurs, elle est tout à fait importante. Or, s'il n'y a pas une volonté politique très forte et une manière de rendre crédible au nom de l'État la politique culturelle, c'est peut-être le seul apport de Jacques Duhamel, après la période lyrique de Malraux, mais où la culture n'était vraiment pas prise au sérieux, l'ambition de Jacques Duhamel, elle était modeste, elle était de rendre cette administration crédible au sein de l'État. Et nous y étions parvenus. Et quels que soient les mérites considérables de la période de Jacques Lang, il y a eu à cet égard peut-être une certaine régression, pour une raison simple. C'est que Jacques Lang traitait les problèmes avec le président de la République, court-circuitant tout le monde, ministre des Finances et Premier ministre, avec de très beaux résultats, puisqu'elle a obtenu des moyens. Mais d'une certaine manière, ça a confirmé les finances, dans l'idée qu'il y avait quelque chose de pharaonique, de caprice royal dans la culture, et que chaque fois qu'on pourrait, au coin d'un bois, la sabrer, on le ferait. Et on vit encore là-dessus. Nous étions tous un petit peu nostalgiques et, comment dire, un peu gênés en entendant Malraux, tout à l'heure, cette espèce de lyrie, ce souffle. On n'oserait plus parler comme ça maintenant, et on ne peut évidemment pas singer Malraux. Et en même temps, nous sentions bien qu'il y avait, dans cette pensée, même exprimée de manière un peu confuse, une espèce de force dont nous avons besoin. Planchon le disait, le personnel politique, y compris au plus haut niveau, à part des présidents de la République, il y en a en tout cas eu deux, Pompidou et Mitterrand, ne semble pas donner à la culture, même si personnellement ils adorent le théâtre, la musique, l'opéra, et qu'on les voit même de temps en temps dans des salles de spectacle, ils n'ont pas l'audace de situer leur pensée politique au niveau le plus élevé qui est celui de la culture. Alors il faut les y aider.
J'en suis sûr, puisqu'il a pris le micro. Claude Confortès, qui est dans la salle, veut poser une question courte, m'a-t-il dit.
Oui, je voudrais poser une question aux intervenants à propos de la fracture sociale. On a parlé actuellement d'une fracture entre les élites et la population, disons, le grand public. Est-ce qu'il n'y a pas dans la culture également une fracture sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas eu dans la culture ces dernières années un côté technocratique qui a un peu oublié tout ce qui était les demandes de la population, pour rejoindre un peu ce que disait Roger Planchon ?
Voilà. Donc c'est une question d'un auteur, d'un metteur en scène, comédien, et qui a beaucoup travaillé. Vous voulez grouper le tir, José Valverde, mais très vite. Oui, allons-y. José Valverde, qui donc lui dirige le théâtre Essaillon après avoir dirigé Saint-Denis.
Roger Planchon a tout à l'heure évoqué les émissions de télévision à grand public. Est-ce que ça fait partie de la culture ou pas ? Et si ça ne fait pas partie de la culture, pourquoi ? Sur quels critères ? Et qui les définit et les accorde ?
Donc, deux questions qui n'ont rien à voir ensemble et auxquelles on pourrait répondre d'une manière séparée. Peut-être déjà la première question de Claude Confortès sur la fracture culturelle et sociale. Quelqu'un veut répondre ? Je pense que Jacques Rigaud, peut-être vous voudriez dire quelque chose, parce que c'est une grande préoccupation, qui est d'ailleurs dans votre livre, oui. Par rapport à l'exclusion d'une manière générale.
Bon. On abuse actuellement de ce mot fracture, mais on sait bien qu'il y a dans notre société des courants qui passent plus. Et c'est vrai, certainement dans le domaine culturel. Moi, une des questions que je me pose, et ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure sur le loisir, c'est qu'au fond, nous tous, hein, je me mets dans le même sac, nous autres les initiés, les gens du milieu culturel, donneurs et receveurs, émetteurs et receveurs, même si nous avons un public, y compris au théâtre, et peut-être surtout au théâtre, infiniment plus diversifié qu'il y a 20 ou 30 ans, on forme une espèce de communauté qui a ses repères, ses références, et qui se satisfait d'être entre soi. Alors, c'est pas de la technocratie, c'est certainement pas de l'égoïsme, c'est pas de l'élitisme, c'est un peu une culture d'initié. Et tout ce qui conduit à ouvrir les fenêtres et à aller vers le, ce qu'on a appelé à une certaine époque le non-public.
Ça, c'était à Villeurbanne en 68.
Et, oui, mais c'est encore un problème, mais on n'a pas les recettes ou on n'a plus les recettes et celles d'avant ne peuvent plus servir.
Sur ce point, Christian Scarretti, vous voulez intervenir avant qu'on réponde éventuellement à José Valverde?
Je suis d'accord avec M. Rigaud. On en a abusé et comment, compris dans les demandes qu'on peut faire à nos théâtres, où tout d'un coup on devient vraiment les dépositaires de la solution à ces fractures dont nous ne sommes pas forcément les responsables, et loin de là. Il y a aussi toujours une sorte de fantasme de la cité athénienne, quoi, qu'on trimballe au niveau du service public, au niveau de l'ouverture. Alors je trouve qu'on est, le théâtre que je dirige, j'ai pas le sentiment qu'il soit même plus dans une ville, il est dans une agglomération, il est dans un conglomérat. C'est très curieux, quoi. Et donc l'identification, le rôle politique, la responsabilité du bâtiment lui-même par rapport à son environnement se détériore fondamentalement dans l'image, hein, que les gens en ont. Et je crois que on peut pas penser nos missions que de ce point de vue-là.
Oui, alors justement, la question qui se pose, c'est la définition du service public, d'un théâtre public aujourd'hui. Oui, Christian Scarretti. Oui.
Non, parce que tout à l'heure, je levais la main désespérément, je voudrais pas répondre à...
Non, allons-y.
Non, je voulais simplement dire, c'est une petite oui, j'espère que monsieur le directeur ne me démentira pas, si je dis que, à propos de la difficulté de nos annuités financières, puisqu'on a des gels, le ministre s'est engagé devant moi à travailler à l'élaboration d'une loi cadre.
Devant vous et devant la profession.
Devant nous, j'étais dans le cabinet du ministre il n'y a pas très longtemps. Il s'est bien engagé, monsieur le directeur. Où est-ce que je...
Ah, le ministre a exprimé ce souhait très très positif de commencer l'élaboration de textes d'orientation, mais je crois avec l'ensemble de la profession et que ce soit un long travail de débat.
Voilà, c'est important que cette émission, ça fait quand même deux informations que nous donnons en direct. Vous voyez l'intérêt du direct. Parce que si on avait enregistré, après on dit vous coupez ce que j'ai dit là-dessus parce que ce n'est pas encore officiel. Tandis que là, c'est passé les deux informations et je vous remercie, monsieur le directeur, d'avoir joué le jeu du direct. Cela dit, on se posait la question.
La télévision,
quelqu'un veut répondre à la télévision.
Moi, je veux bien répondre.
Roger Planchon,
c'est une question presque impossible de parler de la télévision parce que c'est à la fois culturel, non culturel, c'est extrêmement compliqué. J'ai l'impression d'assister à un débat presque. Un jour, Gabriel Marcel, comme ça, dans un débat international, a dit qu'il faut faire du théâtre populaire ou du théâtre pour le peuple ou du théâtre du peuple. Et à la fin, on a discuté des jours et ça n'a servi à rien. Ce qui est le problème dans la télévision, c'est en définitive qu'elle est à la fois culturelle et pas culturelle. Mais c'est pas ça, à mon avis, le problème. Le problème, c'est le pouvoir de la télévision. Le pouvoir de la télévision est exorbitant. En ce sens-là, c'est qu'elle n'est pas que la télévision. Elle contrôle aujourd'hui la totalité du cinéma, donc elle dépasse de loin le problème de la télévision. Elle contrôle le sport. C'est évident que maintenant, les grandes rencontres sportives, le pouvoir de la télévision s'exerce dans le sport.
C'est-à-dire qu'on donne le départ d'une course à l'heure du 20h.
Oui, bien sûr. Elle contrôle la politique, on le sait bien aussi. Et elle contrôle indirectement des choses qu'elle fait mourir. Elle contrôle indirectement ce qui échappe à son contrôle, si j'ose dire, puisqu'elle ne parle pas d'un spectacle de théâtre, et on sait bien qu'à partir de là, si on n'en parle pas à la télévision, il est un petit peu condamné. De la même chose pour l'opéra. C'est-à-dire que le problème de la télévision n'est pas de savoir si elle est culturelle ou pas, elle l'est pas, elle est les deux à la fois. Mais par contre, son pouvoir est exorbitant, parce qu'elle est dans quantité de domaines où elle est au-delà de la télévision. Et ce que je peux témoigner sur le plan personnel, c'est ceci. C'est qu'il y a, parce que je suis âgé, je connaissais une époque où les gens qui venaient au théâtre pour la première fois n'avaient pas de formation. Or, aujourd'hui, ils sont formés. Mais ils sont formés différemment. Ils sont formés par la télévision. Et là, évidemment, il y a un changement dans nos salles qui devient très, très important parce que, curieusement, nous nous trouvons devant des spectateurs qui ont une formation, mais qui est une formation de téléspectateurs. Et donc là, il y a quelque chose de fondamentalement changé, même pour le théâtre.
Alors, vous parliez tout à l'heure des définitions d'aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de vous faire dire depuis le début, de ce que la mission, et c'est Christian Scarretti qui a évoqué ce que peut être aujourd'hui. Je trouve que sur la notion de théâtre, service public, de théâtre populaire, on ne va pas refaire l'histoire aujourd'hui et entendre un certain nombre de témoins importants, quoique il y a des relais, mais il nous a paru intéressant de vous donner entendre une courte intervention, parce que le ministre a annoncé il y a quelques semaines un certain nombre de nominations dans le théâtre national où il a fait remplacer, enfin, tout à fait normalement, je veux dire, avec élégance, deux directeurs de théâtre national, c'est-à-dire que Georges Lavaudant remplacera donc Luce Pasquale à l'Odéon et Alain Françon remplacera Georges Labelli au théâtre national de la Conine. Et après la conférence de presse, comme j'étais un peu surpris de les voir en si bonne compagnie, bon, je leur ai posé une question et j'ai gardé cette interview pour aujourd'hui. Peut-être on pourra réagir en commençant par entendre Georges Lavaudant.
Moi, je suis d'abord pour un théâtre d'art qui doit être partagé par le plus grand nombre, et en particulier aussi, si on peut le dire comme ça, le terme démuni est idiot, mais en tout cas par les gens que nos spectacles racontent, parce qu'il faut aussi voir les récits qu'on mène. Lorsque je pense qu'un Français monte du Edouard Brand, on aimerait qu'il y ait les mêmes gens qui sont décrits dans ces pièces-là, dans nos salles. Mais d'abord, c'est développer un théâtre d'art pour moi.
Et je pense en plus que là, maintenant, c'est des choses qu'on va pouvoir développer.
Et vous, la notion de théâtre service public, vous la voyez comment aujourd'hui ?
À chaque fois, j'ai privilégié le travail sur le terrain, que ce soit au 8e, que ce soit à Annecy. Donc je pense que c'est une mission essentielle. Je trouve que si ce qui a été donné en information par le ministre est suivi, aussi bien les mesures financières que le soutien à la décentralisation, il me semble que c'est la chose la plus importante, le soutien à la décentralisation. Et quant au théâtre public, je veux dire, moi j'ai donné une preuve tout à fait précise. J'ai eu un Molière, je ne suis pas allé le chercher, c'est pour des raisons très précises.
Voilà, les Molières, il n'est pas allé le chercher, ça fait rire Schiaretti, qui avait rêvé un jour de faire un spectacle avec la cérémonie des Molières. Oui. Les Molières, il faut dire juste pour nos éditeurs, en allant vite, bien sûr, c'est une initiative au départ du théâtre privé à laquelle a été associé le théâtre public, et petit à petit, le théâtre public a eu l'impression d'être l'alibi du théâtre privé. Nous en parlerons, nous avons proposé d'ailleurs au théâtre privé d'en parler au cours d'une interview, et ils ont préféré attendre une émission plus importante ou venir aujourd'hui en direct. Et comme on ne veut pas fausser le débat, et on voulait rester sur le théâtre public aujourd'hui. Néanmoins, on peut évoquer avec vous, Joël Gaillot, les problèmes qui se posent peut-être, qui ont été posés, et là, Christian Schiaretti avance son nez, par rapport au théâtre public et la société des auteurs. Vous savez que cette polémique qui est née avec une publicité payée par la SACD, un article publicitaire signé Marcel Bluval.
Oui, on va resituer un petit peu les choses. C'est une lettre ouverte au ministre de la Culture que Marcel Bluval a fait paraître sous forme d'encart publicitaire dans Libération et dans Le Monde en septembre 1995. Lettre dans laquelle il mettait en cause nommément l'Odéon Théâtre de l'Europe et ainsi que le Théâtre de la Colline en les accusant de... En les accusant donc de pratiquer une politique tarifaire qui était comparable à celle des hypermarchés. Et au-delà de ça, il posait également dans le journal de la SACD de octobre-novembre 1995 le problème de la représentation des auteurs vivants français dans le secteur public. Mais vous-même, Christian Schiaretti, vous avez réagi très vivement à cette lettre de Marcel Bluval en lui répondant et en disant notamment qu'il s'agissait là d'un réflexe corporatiste, si je me souviens bien, si j'ai bien lu ce que vous avez écrit.
Si je vous réponds que je ne me souviens pas ce que j'ai écrit, je ne m'en voudrais pas.
C'est
un peu comme la citation de tout à l'heure. Je veux dire, là,
ça n'a pas d'importance. En tout cas, ce qui est important, c'est que Joël Gaillot a fait son travail, c'est-à-dire qu'elle a voulu savoir ce que les auteurs pensé aussi, donc elle a interrogé un certain nombre d'auteurs et voici quelques réponses.
J'ai téléphoné aux auteurs, effectivement à quelques auteurs, et dans l'ensemble, plutôt unanimement, ces derniers qualifient la lettre de Marcel Bluval de relativement maladroite, mais elle a eu au moins le mérite pour eux de permettre aux auteurs de se faire entendre. C'est un pavé dans la vitrine qui a au moins suscité l'attention de la part des institutions, de la part du ministère, de la part de la presse également. Bon, il y en a certains comme Eduardo Manet qui ont tempéré un petit peu les choses en disant que le côté positif de tout ça, c'est que ça avait ouvert le dialogue. D'autres comme Jean-Claude Grumbert qui ont insisté sur la nécessité d'aider l'auteur à se faire connaître. Et pour ça, il parle de la nécessité de promouvoir les auteurs peut-être dans les grandes salles des théâtres, d'organiser des reprises des pièces. Et d'autres encore, comme Jean-Marie Bessé, qui lui est beaucoup plus joué dans le privé que dans le public. Et apparemment, c'est pas faute d'essayer pourtant d'être joué dans le public. Qui lui est beaucoup plus virulent et qui a contesté carrément ouvertement la façon dont les auteurs sont rémunérés dans le secteur public. C'est-à-dire qu'il dit que les droits d'auteur sont versés. Ne sont pas versés en fonction des subventions que perçoit le secteur public et que ça n'est pas normal. Les droits d'auteur sont indexés sur le...
Vous voulez répondre à ça ou on laisse monsieur le directeur, vous voulez répondre?
Non, oui. je veux bien répondre, mais je voudrais être clair. Enfin, je n'ai pas...
Rapidement, hein, parce
que... Oui, c'est ça, voilà. Alors là, on est dans les effets... Non, je vais revenir sur deux, trois choses. On est dans les fameux effets dont parle Roger Planchon, d'une certaine culture médiatique dans laquelle le temps, la lenteur, par exemple, et le temps d'élaboration est proscrit, notamment de nos scènes. Je ne peux pas répondre en 5 minutes.
Vous avez pris le temps de ne pas répondre pendant une heure.
Je peux pas répondre comme cela. Je veux dire simplement que il n'était pas nécessaire de passer par un encart publicitaire lui-même suffisamment onéreux pour avoir débat. Ensuite, il y a auteur et auteur, il y a le sens de ce qu'on en défend. Tous les auteurs ne sont pas à mettre forcément dans un seul sac sous prétexte qu'ils sont simplement contemporains. Il y a des différences, des choix qui se font et qui s'opèrent. Je pense qu'il y a aussi une attaque en règle sur le service public très régulièrement à propos des auteurs contemporains qui ne me paraît pas juste, avec en plus des chiffres faux.
et qu'on ne peut pas tolérer. Et je crois qu'il y a un débat, alors là, qui ferait matière à une émission entière, alors, sincèrement, sur le sujet.
Mais c'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'occulter aujourd'hui, parce que ça fait partie du débat sur le théâtre
absolument.
Service public.
Lié également, Lucien, alors là, je suis très embêté d'y répondre, là, parce que la casquette du metteur en scène et du président du syndicat est très complexe à tenir dans le même mouvement. Parce que, personnellement, j'ai une politique sur l'auteur, j'ai une rémunération de l'auteur, et je travaille avec un auteur lié à une passance de troupe. Ce qui n'est pas, ou relativement peu, le cas dans la décentralisation au niveau national. Alors c'est difficile pour moi, parce que je peux répondre pour moi et quelquefois ne pas pouvoir parler pour l'ensemble de la profession.
C'est parlez pour vous.
Difficulté, oui.
Alors parlez pour vous.
En ce qui me concerne, je revendique, un, le choix d'une pensée. C'est-à-dire que je défends d'abord une pensée. Première chose. Et pas simplement un auteur contemporain avec une sorte de label un petit peu...
D'où votre compagnonnage avec Alain Badiou, par exemple.
Voilà. Et avec un artisanat inscrit dans un théâtre donné et avec un public qui achève le spectacle. Ça, c'est... Et je pense qu'il faudrait que tous les centres dramatiques fonctionnent comme ça. Mais évidemment, je le défends pour moi. Le président, lui, il est plus ouvert.
Non, mais là, vous... Voilà. Et donc, il y a une autre question peut-être qu'on pourrait poser.
Oui, la plupart de ces auteurs a soulevé une question que peut-être Jacques Baillon pourra peut-être résoudre. Il propose qu'on mette à la tête d'un théâtre national, éventuellement, un collège d'auteurs. Je sais que le mot ne plaît pas à Lucien Atoun, mais mettre des auteurs à la tête, à la direction.
Qu'est-ce qui ne plaît pas à Lucien Atoun ?
Collège, vous avez dit tout à l'heure que c'était un mot qui...
Collège ? Ah non, j'ai parlé de collectif. Là, non.
Mais la question n'est pas de décider d'une façon fétichiste de mettre des auteurs, des décorateurs, des spectateurs à la tête d'un théâtre. Le problème, c'est de revenir, et non pas dans un geste réactionnaire, bien au contraire, mais de revenir à ce qui faisait l'essence du travail dramatique, c'est-à-dire la directe coopération entre une équipe d'acteurs, une troupe et un auteur. Je prendrai d'une façon non caricaturale l'exemple emblématique de Molière. Bien, que l'auteur, depuis l'époque romantique, soit en règle générale coupé du monde du théâtre, a posé un problème. Et Christian Sciarretti a raison de rappeler cette relation qui est en train de se tisser maintenant entre les nouveaux créateurs, que Roger Planchon, qui est lui-même auteur, connaît cette relation qui existe entre la scène et l'écriture. Mais on ne peut pas dire d'une façon abstraite, ça ne veut rien dire. On prend des auteurs et on les met à la tête d'un théâtre. Non, quels auteurs et quel est leur rapport concret avec la pratique théâtrale.
Et puis je vous
théâtrale.
Pose une question, et quel théâtre peut-être aussi ? Jacques Rigaud.
Non mais moi je dois dire que je suis pas stupéfait hélas, mais consterné, si j'ai bien compris ce que disent les auteurs. Et c'est pas de leur faute, mais on a encouragé depuis des années ce corporatisme. Alors les auteurs demandent à être payés, non pas sur une partie de la recette, et ils nient ce qu'est le théâtre, mais voudraient un prélèvement, un précipute sur la subvention.
Certains auteurs.
Première monstruosité.
C'est uniquement Jean-Marie Bessé qui...
Attendez, laissez parler.
Deuxièmement, mettre à la tête des théâtres des collectifs d'auteurs.
Collège.
Ou un collège d'auteurs. On mettra à la tête des théâtres, que ce soit l'État ou n'importe qui, la personne la plus compétente. Bon, et pas en fonction de sa catégorie professionnelle. Troisièmement, ils n'ont pas encore dit, mais vous allez voir ce que vous allez avoir des quotas. Ils vont vous demander des quotas d'auteurs français, d'auteurs vivants, et les mêmes sottises que celles qu'on vit dans la télévision et dans la chanson française. Voilà la mentalité corporatiste à laquelle conduit une certaine désespérance ou une certaine pénurie. Et c'est de ça que je voudrais qu'on puisse sortir, et que les acteurs de la vie culturelle soient des acteurs majeurs, de plein exercice, et non pas des quémandeurs, ou de subventions, ou de statuts et de protections, parce que la culture, elle en mourra.
Jacques Rigaud, et donc tout ça, on a un livre qui est sous les yeux, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant, on en parlera dans une prochaine émission, c'est Lerne, c'est consacré à Jean Bilard, dont on a un peu parlé, beaucoup de témoignages. Et vous, en ce qui vous concerne, Frédéric Arbouet, vous avez été particulièrement sensible, comme par hasard, à un article de vous, Jacques Rigaud, c'est ça ?
Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de nouveau, ça a été dit tout au long de l'émission, à savoir que la politique culturelle telle que l'a préconisée Jean Villard était à son essoufflement le plus total. Mais ce qui me paraissait intéressant, c'était l'analyse que vous faites sur ce devenir de politique culturelle par quatre catégories d'efforts que la culture va avoir, c'est-à-dire offrir au plus grand nombre, à savoir les grands projets d'État, et enfin vous terminez par les pouvoirs publics, c'est-à-dire le service public.
Vous maintenez.
Donc, est-ce que la culture doit être offerte à tous ou accessible à tous ? Je crois que c'est aussi le problème que se pose actuellement.
C'est l'éternel problème. C'est l'éternel problème, mais même si on a inventé des solutions il y a 20 ou 30 ans, il faut en inventer de nouvelles. Et comme le disait Roger Planchon, parce que je suis à 100% d'accord avec lui, bien que mon point de vue soit un peu différent, c'est pas l'alibi de la télévision et de ce qu'elle peut offrir, même de meilleur, qui remplacera la participation concrète, physique, réelle, aux activités de culture, comme le théâtre en est l'impression, l'expression peut-être la plus intense.
Mais aujourd'hui, le défi culturel pour les années à venir, c'est lequel ?
C'est la tentation de l'indifférence à l'égard de la culture.
C'est-à-dire, vous êtes toujours pour le partage, finalement.
Bien entendu.
Et le théâtre rassemble.
Mais aussi. Méfions-nous de la tentation de l'indifférence de la part des responsables et de la part de nous tous, sauf, pas comme citoyens.
Comme responsables.
Comme responsables.
Décideurs, un mot. Comme... Alors, on parlera dans une prochaine émission, encore une fois, de ce livre, Lerne, Jean Villard, auquel Jacques Téfany a consacré un long travail, avec d'excellents témoignages. Est-ce que, dans les quelques minutes qui nous restent, je pense que je pourrais vous passer la parole, Roger Planchon ? Non, vous n'avez rien à... Vous avez à donner, vous avez à apporter des choses à l'autre génération. Vous n'avez rien entendu. Est-ce que vous avez entendu un message sur l'angoisse, là ? Ça vous a laissé froid, en définitive ? Vous en avez vu d'autres ?
Je vois pas où est la question, véritablement.
Oui.
Moi, je pense que c'était normal que, après cette période lyrique... il y ait une génération qui monte et qui nie l'héritage de Villard. C'était normal que cela se passe. Et ça a été quand même... c'est lié aussi à toute une pensée qui existait, que vous connaissez bien, quoi, qui existait dans ces années-là, qui était de croire que la classe ouvrière allait s'emparer de la culture. Et il est évident que la génération qui venait n'avait pas cette croyance, ne pensait pas cela. Et à partir de ce moment-là, évidemment... Il y a une espèce de cassure qui s'est passée. Moi, je suis assez d'accord. C'est autour de 68 que ça se passe.
Stéphane Branchemaille.
C'est d'ailleurs une période très curieuse, 68, parce que c'est d'un côté cette cassure. D'autre part, il faut savoir que sur le plan de l'art, certainement entre 65 et 70, c'est une période d'une fécondité du point de vue de l'invention théâtrale extraordinaire qui n'a son équivalent qu'en 1925. C'est-à-dire qu'en 1925, quand il y a eu le grand théâtre expressionniste, le Meyerhold, quand il y a eu les Russes formidables, le début de Brecht, etc., c'était d'une création formidable. Et il y a eu, entre 65 et 70, des spectacles extraordinaires dans le monde entier. Mais effectivement, quand surgissent des spectacles comme ça et un tel bouleversement artistique dans l'histoire du théâtre, il est évident que ça a des conséquences et que par ailleurs... enfin. Faut pas se le nier, il y avait la naissance de la télévision d'un côté, et de l'autre côté, il y avait la fin du communisme. Donc quand même, c'est des événements mondiaux considérables. Le théâtre devait dérouiller, c'est forcé. Et c'est bien qu'il ait dérouillé, c'est même une preuve de santé.
Alors, on veut pas péter, on laisse le mot de la fin à Roger Planchon. Vous êtes d'accord ? En tous les cas, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée des informations qu'on donne en direct, on passe un fax ou une télécopie, comme ça. C'est Jacques Nichet qui va donc prendre la succession de Jacques Rosner, votre ancien collaborateur, Roger Planchon. Voilà, vous ne le saviez pas, Christian Scaracchi ? Eh bien voilà, vous qui êtes président du Syndéac, je vous donne en direct, il va donc prendre la succession, tandis que Jacques Rosner aura une mission, c'est une formule souvent consacrée à la décentralisation dramatique, et en tous les cas, Nichet est le futur directeur du Centre dramatique de Toulouse. Voilà, je vous ai donné l'information en direct, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je rappelle simplement que Stéphane Branchemaille, vous êtes à l'Odéon, je l'ai dit tout à l'heure. Roger Planchon, vous êtes à Nice et vous serez à Villeurbanne. On vous retrouvera avec la Tour de Nesle. En ce qui vous concerne, Christian Scaretti, bien, Ahmed, le philosophe, Alain Badiou, c'est à Saint-Quentin-les-Yvelines, oui, pas loin de Paris. Il y a un spectacle de Jean-Pierre Jourdain que nous avions reçu vendredi dernier. Et vous, Jacques Rigaud, je l'ai dit, il y a votre livre qui est dans toutes les bonnes et les mauvaises librairies qu'il faut acheter parce que ça polémique bien et vous dites toute une histoire du théâtre et de la culture en France. Donc c'est chez Grasset. Et merci de nous avoir permis de faire cette émission en direct et en public du studio 168. Théâtre Service Public avec Jacques Bayon, Stéphane Brochbeck, Roger Planchon, Jacques Rigaud, Christian Scaretti, avec la participation d'Alain Françon et de Georges Lavaudan, les voix d'André Malraux, de Dominique Villard, avec aussi la collaboration de Frédéric Arbeau et Joël Gaillot. L'émission avait pour l'équipe technique Claude Tourteau, Vincent René, et elle était réalisée par Véronique Lamandour.
Cette émission a été diffusée le 23 janvier 1996 sur France Culture.